Dans l'actualité des idées aujourd'hui, quels sont les combats prioritaires à inscrire à l'agenda féministe? On en parle avec notre invitée, la philosophe Nancy Fraser, professeure à la New School for Social Research à New York et co-auteur avec Cynthia Arruza et Titi Bhattacharya d'un essai manifeste intitulé « Un féminisme pour les 99% » et qui appelle à redéfinir aussi les priorités du mouvement, à sortir des strictes questions de genre pour s'intéresser aux inégalités sociales et politiques, à sortir enfin d'une vision entrepreneuriale, libérale, de l'égalité femmes-hommes. Bonjour Nancy Fraser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Est-ce que ce manifeste est, pas seulement, mais aussi, né en réaction à la vague MeToo? On se souvient de certaines féministes françaises, notamment comme Eugénie Bastier, pointant dans ce mouvement un mouvement élitiste bourgeois qui n'a pas atteint les supermarchés, les usines. Un mouvement qui ne parlait pas à toutes, pour vous aussi?
Oui, c'est correct. Dans les années avant, il y avait une dominance dans le mouvement féministe de ce courant néolibéral, libéral, un féminisme du pouvoir, des élites, qui s'adresse au problème d'une strate très étroite des femmes. C'est surtout les femmes professionnelles, managériales, qui essaient de monter les hiérarchies. Et l'idée d'égalité de ce strate du féminisme, de ce courant féministe, est très, très étroite. Et on dit que, en effet, c'est que les femmes professionnelles doivent être égales des hommes de leur classe. C'est pas l'égalité dans le sens plus large. Et maintenant, ce féminisme-là est dans une crise. Et il y a un moment, une ouverture pour une autre sorte du féminisme, et c'est ça que ce livre essayait à décrire et à promouvoir.
Mouvement précédent dont vous, moi, avons aussi bénéficié, vous à l'université, moi dans les médias.
Mais oui, le mouvement féministe, pour moi, a ouvert bien sûr les portes. Pour l'instant, la plupart des femmes aux États-Unis, en France, n'importe où, ont très peu bénéficié. Très peu. Les femmes de classe ouvrière, les femmes de couleur, les femmes minorisées, de n'importe quelle de religion, de sexualité, elles ont peu bénéficié parce que, je dirais que la libération des femmes des classes moyennes professionnelles ont coïncidé avec un baissement des conditions de la vie pour la grande majorité de peuples hommes et femmes. Et ça, c'est le problème. Dans une telle situation, il faut un autre genre du féminisme.
Qui sont aujourd'hui pour vous, Nancy Fraser, ces 99% auxquels s'adresse ce manifeste, est-ce que c'est des hommes déjà, des hommes, des femmes? Est-ce que c'est pour toutes et pour tous? Ou qui sont, comment vous les percevez? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce pourcentage? Ou qui vous mettez plutôt?
Oui, cette phrase qui est d'origine du mouvement Occupy, ça adresse 99% de l'humanité. C'est pas un féminisme pour des femmes uniquement. Cet féminisme s'adresse au problème de genre comme division structurelle dans la société qui forme toutes les institutions de notre société et qui empêche une égalité sexuelle, une égalité genrée, mais qui se mêle avec des autres divisions sociales, divisions de classe, de race, etc. Et on essayait de transformer cette société, on changeait cette division genrée qui est au cœur de la société. Au même temps, il faut s'adresser à toutes ces autres questions. Et ça implique des hommes, bien sûr.
J'en reviens à cette vague MeToo qui est née aux États-Unis. Pour vous, ça reste un non-événement? C'est pas un moment de rupture dans le féminisme, notamment? dans le combat des femmes.
C'est un moment important parce que on voit une explosion d'énergie. Même cette phrase Me Too, ça veut dire et moi, tout le monde, un grand nombre de femmes se reconnaître dans ces expériences des victimes de, par exemple, Harvey Weinstein. Mais ce qui est important, la représentation médiatique met l'accent sur la situation des actrices connues, assez privilégiées, Hollywood et tout ça. Mais la grande majorité des femmes se reconnaître l'expérience dans tous les autres secteurs. Mmh. Les femmes qui travaillent dans l'agriculture, dans les hôtels, comme la question fameuse de DSK. Les femmes qui travaillent dans les maisons privées, domestiques, souvent sans papier. Les femmes qui travaillent dans les hôpitaux, dans les maisons de soins pour les âgés. On est toutes vulnérables à ces agressions sexuelles. Et il y a aussi les problèmes, même que la grande majorité sont des femmes, des victimes, il existe aussi les victimes masculines. C'est-à-dire, on sait que Kevin Spacey a violé plusieurs de jeunes hommes. Alors, il y a cette, mais la chose la plus importante, c'est Me Too. C'est un mouvement pour les droits de travailler. C'est un work struggle, une lutte pour des conditions à travail sans agression, sans menace, sans prédation. Et ça doit être vu comme lutte travailleur.
C'est intéressant comme lecture, oui, de ce mouvement, Nancy Fraser. Ça veut dire aussi que, pour vous, MeToo n'est pas suffisamment sorti de cette petite sphère du cinéma et des médias, que les femmes précaires des milieux populaires qui sont aussi, ou qui peuvent aussi être victimes de harcèlement, ainsi que les hommes, n'ont pas bénéficié de cette visibilité-là du mouvement. Il n'y a pas eu un effet, il n'y a pas eu de répercussion pour vous. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit, oui, mais les actrices, elles ont le moyen de rendre visible cette cause, de prendre la parole. Et ça va, rejaillir sur toutes les couches de la société. Et ça va servir aussi celles qui n'ont pas la parole. Ça ne marche pas comme ça?
Non, je crois qu'il arrive quelque chose comme ça. C'est vrai que ce strat de femmes très privilégiées qui commandent l'attention, oui, ça met l'accent sur le problème. Et maintenant, on voit dans plusieurs pays les organisations syndicales qui s'occupent de cette question. Je crois que ça coule dans la société.
Cette question du harcèlement, de la séduction, comme on l'appelle parfois aussi, ou de la contre-séduction, et plus fondamentalement encore celle du consentement. C'est ce qui est en jeu aussi à travers ces débats. À l'origine de ce manifeste, Nancy Fraser, il y a des marches de femmes, celle de Pologne en 2016, celle d'Argentine aussi. Et il y a la question, cette mobilisation, cette nouvelle forme de mobilisation qu'est la grève des femmes, comme celle organisée le 8 mars dernier, qui rappelle les origines du mouvement féministe.
Dire stop aux inégalités salariales. Aujourd'hui, les femmes sont invitées à faire grève à partir de 15h40. Heure symbolique.
Les inégalités salariales que subissent les femmes, environ 25% à poste égal, à compétences égales, ça équivaut à une journée de travail, ou en tout cas une journée de salaire, qui pour nous s'arrête à 15h40.
Des discriminations sur leur lieu de travail que les femmes veulent dénoncer.
On a besoin de faire plus nos preuves que les autres, voilà, c'est tout, et pour garder notre place, pour être à la hauteur.
On leur refuse encore accès à certains postes et donc ça mérite d'être combattu.
Car ce sont elles les plus touchées par la précarité. 80% des contrats à temps partiel sont occupés par des femmes.
Le droit des femmes à exercer un travail, à être des actrices économiques à part entière, ce droit-là n'est toujours pas effectif. On rencontre toujours à la fois les stéréotypes, les discriminations et les violences dans le monde du travail et dans le monde économique en général.
Des rassemblements se tiendront partout en France dès le milieu d'après-midi.
Voilà, des rassemblements qui dénoncent des discriminations salariales, des inégalités de traitement au travail, une précarité aussi accrue chez les femmes. Nancy Fraser, là on était le 8 mars cette année en France, où à l'appel d'associations de défense des droits des femmes et des syndicats, des salariés se sont donc arrêtés de travailler à 15h40. Il y a toute une symbolique à choisir le 8 mars comme date. Vous pouvez nous expliquer en quoi ? C'est une manière pour vous de repolitiser ce combat qui est celui du droit des femmes?
Oui, bon, il y a la question historique du 8 mars qui est l'International Women's Day depuis des années 20, qui est à l'origine du féminisme socialiste, du féminisme des classes travailleuses. Et cette fête était dépolitisée depuis longtemps et ce mouvement de notre époque est en train de le repolitiser. Je veux ajouter une chose, c'est que le travail, du point de vue de ce mouvement, ne se limite pas au travail payé. Le grève, c'est pour aussi pour travail non payé, c'est-à-dire on s'arrête de faire le shopping, le ménage, le nettoyage, le smiling, tout ça, toutes les choses qui est le travail invisible des femmes de la société,
et le
travail
sourire en
de
fait
la
partie.
Reproduction sociale.
Le sourire en fait partie pour vous, Nancy Fraser?
Comment?
Le sourire en fait partie pour vous? De ce travail non rémunéré?
Oui, c'est en sorte, dans certaines cultures, et les femmes sont obligées à sourire dans une façon où les hommes ne sont pas obligés. Ça, c'est une certaine c'est pas grave, mais oui, ça peut être une sorte de performance de production de fémininité qui soothe, qui se rend smooth. Oh, je ne sais pas le mot en français, excusez-moi.
Ce 8 mars, dans tous les pays ou dans beaucoup de pays, il y a eu ces mouvements qui se sont mis en marche, ces grèves de femmes à l'appel d'associations ou plus spontanément. Ça a été le cas en Pologne, ça a été le cas en Argentine, on l'évoquait, et avec pourtant des objectifs à l'origine assez différents. En Pologne, les femmes marchaient dans la rue et ont choisi de faire grève pour de débrayer, hein, pour s'opposer à l'interdiction de l'avortement. En Argentine, c'est encore un autre déclencheur qui a joué pour ces grèves-là. Est-ce que ces mouvements vont réussir à trouver ou trouvent aujourd'hui, pour vous, une revendication commune, hein, une mobilisation commune?
Oui, c'est intéressant parce que vous avez raison, il y a des enjeux différents dans les différents pays, et surtout la violence, la liberté de reproduction, la justice reproductive, aussi les protestations contre l'austérité, c'est très important pour dans quelques pays, dans plusieurs pays, parce que ce féminisme qui surge, qui développe aujourd'hui parmi des jeunes qui est très militant, très énergisé, ça devient un peu le voix de toutes les populations contre l'austérité. C'est une voix différente de celle du populisme du droit, qui était jusqu'à maintenant la plus grande voix qui proteste l'austérité. Ça vient du droit. Maintenant, le féminisme pour le 99 devient un peu une autre voix contre l'austérité qui est à la fois antiraciste, écologique, démocratique, féministe, qui déteste le chauvinisme, le racisme du populisme du droit. Mmh.
Pourquoi cette convergence, elle est essentielle pour vous aujourd'hui? Pourquoi vouloir sortir le féminisme d'une stricte problématique de genre? Ce que vous faites, vous, dans votre champ universitaire, dans vos études, pourquoi ça doit s'appliquer aujourd'hui au combat féminisme? Que ça correspond à cet autre féminisme que vous prenez?
Oui. Comme j'ai dit, le féminisme libéral a entré dans une crise. Le symptôme, c'est peut-être le défait de Hillary Clinton dans l'élection américaine 2016. Et à ce moment, il y a un vrai désir populaire pour notre féminisme. On voit chez les jeunes, surtout les jeunes femmes, mais aussi les jeunes hommes. Et cet féminisme, cet autre féminisme qui commence à exister dans ces manifestations, oui, marches, dans ces mouvements particuliers dans les pays différents, devient un peu, s'internationalise un peu avec ce 8 mars, ces grèves de 8 mars. C'est une sorte d'internationalisation de ces mouvements. On apprend l'un de l'autre, on s'est inspiré l'un de l'autre et on fait des communications internationales. Et dans le manifeste vient d'apparaître ici, on essaie de donner ce mouvement un nom et d'esquisser un peu la pensée, la théorie qui peuvent le développer dans une force vraiment transformatrice. Et il y a là-dedans une certaine théorie de la place, la forme du genre dans des sociétés capitalistes. La domination masculine prend des formes très, très différentes dans les sociétés différentes. Dans les sociétés capitalistes, c'est ancré, à mon avis, en la division entre production économique monétarisée et la reproduction sociale, souvent non monétisée, mais pas toujours, et souvent fait la responsabilité des femmes. C'est cette division institutionnalisée qui forme une structure de base de la société capitaliste. Et à mon avis, ça c'est le point absolument profond pour libérer les femmes, pour émanciper les femmes. Il faut transformer cette structure institutionnelle.
En ouverture de ce manifeste féminisme pour les 99% que vous avez coécrit, Nancy Fraser, vous mettez en avant une sorte d'état des lieux du féminisme actuel avec ces deux courants, celui illustré par la grève des femmes au printemps 2018 en Espagne qui a paralysé le pays pendant 24 heures à l'appel des organisatrices du mouvement de la Huelga Feminista, et d'un autre ce féminisme d'en haut dit libéral, élitiste, individualiste qui voudrait étendre à toute sa culture dominante. Incarnation de ce courant pour vous, Sheryl Sandberg, la directrice opérationnelle de Facebook, qui, dans l'extrait qu'on va écouter, revient sur le plafond de verre et les raisons pour lesquelles les postes de direction, selon elle, échappent encore majoritairement aux femmes.
Les femmes n'arrivent pas au sommet de leur profession, quelle qu'elle soit, et où que ce soit dans le monde. Les chiffres le disent de façon très claire. 190 chefs d'État, 9 sont des femmes. De tous les gens siégeant au Parlement dans le monde, 13% sont des femmes. Dans le secteur des entreprises, les femmes au sommet des postes de direction, dans les conseils d'administration, représentent 15-16% maximum. Ma génération, c'est triste, ne va vraiment pas changer les chiffres au sommet. Ils ne bougent pas. Nous n'arriverons pas à l'égalité dans ma génération. Il n'y aura pas 50% de femmes au sommet d'aucune industrie. Mais j'ai bon espoir que les générations futures le puissent. Je crois qu'un monde dans lequel nos pays et la moitié de nos compagnies seraient dirigées par des femmes serait un monde meilleur.
Alors là, vous n'êtes pas du tout d'accord avec elle. Sandberg et ses semblables, écrivez-vous, voient le féminisme comme un auxiliaire du capitalisme. Elle réclame une égalité des chances de dominer.
Oui, oui, c'est vrai, parce que, comme vous avez entendu, elle croit que s'il y a au sommet de management, de pouvoir, moitié femme, moitié homme, elle croit que ça change quelque chose, mais ça ne change rien. On a encore des grandes entreprises et des plusieurs de gens sans travail, des travail précarieux. Et les femmes comme Sandberg qui achèvent le succès dans les entreprises le fait parce que il dépend sur le travail très peu payé très exploitées. Des femmes de couleur qui nettoient leur maison, qui s'occupent de leurs enfants, de leurs parents âgés. C'est la libération d'une très petite strate qui laisse la grande majorité dans les conditions pas du tout libérées.
Oui, mais ce que vous dites, vous avez raison, mais c'est la source d'un combat anticapitaliste. Quel lien avec le féminisme? Est-ce qu'on ne pourrait pas, à contrario, se dire que femmes, hommes, si on n'a pas une vision différentialiste des choses, effectivement, il serait normal, dans un terme pur d'égalité, qu'il y ait aussi des femmes à la tête des entreprises qui pratiquent ce que vous dites aujourd'hui? En quoi ça exclut, en fait? Pourquoi ce sont deux combats que vous assimilez?
C'est parce que maintenant, on n'est pas dans un moment ordinaire. Dans les temps ordinaires, la politique consiste plus ou moins à essayer de s'améliorer les structures existantes peu à peu. Et on a essayé de faire ça, comme elle a dit, pendant les dernières 40 ans. Maintenant, c'est un moment anormal, un moment de crise où toutes la pensée reçue, tous les partis établis sont fondés. Les gens ne veulent pas continuer. Bernie Sanders a fait un discours hier que je viens de lire, le New York Times, en disant que ce n'est pas le moment pour faire les petits tweaks, en anglais on dit, les petites, changements. C'est le temps de penser dans une échelle beaucoup plus grande parce que le système ne marche pas. Le système ne marche pas. Et maintenant, on a la chance, même l'obligation, de penser la politique féministe dans une façon large qui s'adresse aux problèmes structurels.
Est-ce que pour que le système change, pour les 99%, vous n'avez pas besoin des 1% restants, qui restent puissants aujourd'hui?
Mais le 1%, ou peut-être c'est encore un peu plus, qui sont qui bénéficient du système. J'imagine qu'il et elle lutter pour que rien ne change pas. Mais il faut les combattre. Et je dirais que le féminisme aujourd'hui doit se mettre à côté de l'humanité, de le 99% contre les 1%, même contre les féministes à l'intérieur des 1%. Il y a plusieurs variétés du féminisme et seul ce type de est le lien qu'on a besoin aujourd'hui.
Et vous, vous vous définissez comment? Puisqu'il y a plusieurs variétés de féministes. Quelle est votre variété à vous? Féministe marxiste, vous diriez, aujourd'hui?
Oui, je dirais féministe marxiste ou socialiste, dans le sens démocratique. Mais c'est un marxisme, c'est un socialisme beaucoup plus enlargé par comparaison avec les idées traditionnelles du marxisme et du socialisme. C'est-à-dire, ce n'est pas suffisant à transformer le système de la production. Il faut aussi transformer les conditions à l'arrière-plan de la production, même la reproduction sociale. Il faut transformer surtout la relation production-reproduction, s'il y a une relation genrée. Et oui, on peut dire ça, une sorte de socialisme, mais c'est différent du socialisme traditionnel.
Un mot du féminisme du microcrédit, comme vous le nommez dans ce manifeste. On pensait jusqu'ici que c'était un outil aussi d'égalité entre les hommes et les femmes qui permettrait aux femmes qui en bénéficiaient de s'émanciper dans cette théorie de l'empowerment, comme on peut la qualifier aujourd'hui. On l'a vu notamment en Inde, où ce système de microcrédit a été très largement utilisé avec des associations comme Siwa, où les femmes géraient, elles, directement et redistribuaient aussi. En quoi ça ne vous semble, là encore, pas correspondre à un féminisme idéal, à cet autre féminisme qui s'adresserait aux 99%?
Mais ça, c'est le féminisme du banquier. C'est une idéologie que ça a vraiment émancipé les femmes. Il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est le retrait de l'État de la responsabilité de créer le travail, de diriger la société dans les intérêts de la grande majorité. Quand l'État, dit développementaliste, retire de ses obligations sous la pression des institutions globales financières, sous la pression de la structural adjustment, on a découvert tout un coup que le marché peut libérer les femmes. Et bon, on a le microcrédit. Mais en réalité, les recherches montrent que c'est souvent les hommes de famille qui contrôlent les fonds qu'on prête nominalement à les femmes, aux femmes. Ça n'a vraiment, c'est un autre sorte de tweaking, une petite chose qui, si on va à Indre, on ne voit pas l'égalité de n'importe quel type.
Vous plaidez donc dans ce manifeste pour un féminisme totalement inclusif. Ce sont vos mots à la fois anticapitaliste, on a commencé à éclairer cette notion-là, mais aussi antiraciste, écologiste, internationaliste et anti-hétérosexiste. Si on prend ces termes les uns après les autres, pourquoi un féminisme antiraciste ? Là, vous êtes pour une convergence des luttes, cette fameuse intersectionnalité, comme on l'a évoqué, plutôt que de les opposer ?
Oui. Parce que le genre, c'est une division absolument fondamentale à la société capitaliste, mais il n'était pas le seul. Il existe aussi des autres divisions sociales aussi ancrées structurellement dans la société qui se mêlent, qui croisent avec le genre. Comme je viens d'expliquer, si vous pensez que vous pouvez libérer les femmes en rendant possible que les Sheryl Sandberg peut monter quand les femmes noires et migrées s'occupent de leur ménage pour elles, vous voyez tout de suite comment il faut que le féminisme comprend aussi question de race et de classe. Le genre ne peut pas être extriqué de ce c'est une matrice où toutes ces divisions sont tout à fait inter-imbriquées.
Cette question de classe, notamment, on le retrouve dans un autre exemple. Je vous propose d'écouter les mots de la professeure en sciences politiques à l'université Rennes 2, Caroline Ibos. Elle a publié en février 2012 « Qui gardera nos enfants ?»
L'une des approches du livre, ça a été de montrer comment les rapports entre les sexes, les rapports entre les classes et les rapports entre les races se corrélaient. Et effectivement, on peut dire que dans l'appartement parisien, les rapports entre les sexes autour des tâches domestiques restent complètement inégalitaires. Et finalement, c'est extrêmement douloureux pour les femmes de se battre jour après jour, quotidiennement, pour rappeler à leurs compagnons de s'occuper de ceci, de cela. Employer une nounou, c'est une manière finalement de déplacer le conflit à l'intérieur du couple, de déplacer ce conflit entre les sexes et de déplacer le rapport conflictuel entre les sexes dans un rapport conflictuel entre les classes. Mais dans ce rapport conflictuel, eh bien finalement, l'employeuse, elle est vraiment dominante.
Donc on déplace la conflictualité et on crée de nouveaux rapports de domination. C'est ça.
Je suis absolument d'accord avec Caroline Ibos. Et non, c'est très bien dit. Et je dirais simplement que ça a beaucoup à faire avec le néolibéralisme. Parce que dans la période antécédente, celle de la démocratie sociale, on avait l'État qui soften, qui rend plus doux ces conflits avec la protection sociale, la provision sociale des services, de l'éducation, de la santé, de n'importe quoi, des formes d'aider la reproduction sociale. avec le néolibéralisme, quand l'État retire ses efforts, la reproduction sociale est de plus en plus privatisée, c'est-à-dire commodifiée, marchandisée, pour celle qui peut le payer des autres à le faire. Et ça veut dire que les autres, il faut les déplacer leur responsabilité reproductive familiale sur quelqu'un d'autre moins privilégié. C'est dans ce système néolibéral, avec la privatisation et les marchandisations de la reproduction sociale, tous ces conflits classe, race, deviennent plus aigus.
Mais alors comment faire?
Comment faire pour une femme
qui veut aller travailler?
Il faut faire un féminisme pour les 99%, beaucoup plus inclusive, qui s'adresse, qui n'essaie pas d'extraire le genre de tous ces autres problèmes, mais qui comprend ces intersections et qui essaie de s'adresse, qui prend la situation des femmes non privilégiées comme norme et s'adresse à elles. C'est ça, comment faire.
Voilà, en repartant, en changeant aussi le regard qu'on porte jusqu'ici. En quoi, pour reprendre les cinq termes que vous avez employés dans ce manifeste, un nouveau féminisme, un autre féminisme pour les 99%, peut-il aussi converger avec le combat écologiste aujourd'hui?
Oui, absolument, et il peut et il doit, parce que j'ai l'idée que le féminisme est un mouvement social parmi les autres. Tout seul, il ne change pas la société dans le sens vraiment structurel, transformatif. Il faut absolument des alliances, et il faut des alliances avec les courants anticapitalistes des autres mouvements. J'ai le rêve que le féminisme pour les 99% peut être une sorte de modèle pour les autres mouvements sociaux, que les courants des écologistes doivent construire une écologie pour le 99%, que les mouvements antiracistes construisent un courant antiracisme pour les 99%. Il faut les mouvements qui partagent cette orientation majoritaire et inclusif, structurel, transformatrice et anticapitaliste, tout ensemble pour faire un changement.
Quelles sont les forces contraires, les vents contraires qu'il va falloir affronter pour établir ce féminisme, selon vous, ce féminisme pour les 99%?
Je dirais qu'il y a deux forces en opposition. Le plus obvious, c'est le populisme du droit qui surge dans tout pays, c'est évident. Hein. Mais il y a aussi un autre ennemi, qui est aussi dangereux, c'est ce que j'appelle le néolibéralisme progressiste, c'est-à-dire les forces qui fait la financiarisation de la société, qui change le marché du travail en direction précarieuse et qui se légitimisait, c'est légitime. Avec une idéologie libérale du féminisme, des green capitalism, de LGBTQ dans le sens libéral représentatif, vous me comprenez? Et ça c'est le status quo ante. Avant le populisme du droit, on avait Obama, on avait les Clinton, on avait Gerhard Schröder, on avait Tony Blair, on avait François Hollande. Et bon, c'est eux qui ont consolidé le néolibéralisme avec une sorte d'aura du progressisme, du féminisme. Mais c'est une idéologie, c'est fausse. Il veut se reconstituer maintenant. Et c'est aussi un ennemi.
Merci beaucoup à vous, Nancy Fraser. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que ce féminisme pour les 99%, un manifeste, vous l'avez co-signé avec Cynthia Arruza et Titi Batacharia, et qu'il est publié aux éditions La Découverte. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Mayenne Escovic et Laura Dutèche-Pérez, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide très précieuse de Mathilde Tonfourcade et d'Antoine Suzarelli. À la réalisation aujourd'hui, c'était Marie Placet avec Clément Dattet.